Et bonsoir et bonjour. Voilà, si vous avez reconnu le générique de l'écho des associations, voilà, un écho des associations, nouvelle mouture en cette période de déconfinement. Pas encore de nouveaux invités, mais on va revenir sur cette émission. Donc, en ce lundi 25 mai, 19h, diffusée vendredi 29 mai à 11h, bah, sur des enregistrements qui auraient pu être réalisés avec des bénévoles ou des responsables associatifs, voilà, dans le cadre de notre habituel journal. Et pour cet écho des associations spéciales, vous entendrez Laura Ousty, elle est bénévole au sein de l'association Bienvenue. Bienvenue dont la vocation est plutôt d'organiser des événements culturels au profit de SOS Méditerranée. Mais en cette période, eh bien, elle s'est tournée vers la distribution alimentaire. On aura également le plaisir d'écouter Alain Duleux-Buret, président de l'association L'Autre Rive, éditrice du journal L'Écho des Collines, avec un numéro double en cette période, avril-mai 2020, 236. Voilà le magazine L'Info 100%. Et enfin, Lise Marie Evenot, elle est chargée de développement à l'association Culture du Cœur, Culture du Cœur Gironde, qui est une association qui favorise la participation à la vie culturelle, sportive et aux activités de loisirs. Et pour ouvrir cet écho des associations, on retrouve sans plus tarder Laura Ousty, bénévole au sein de l'association Bienvenue. Et là, on va tout de suite retrouver Laura, bénévole au sein de l'association Bienvenue. Et bien justement, bienvenue sur notre antenne, Laura.
Oui, bonjour.
Voilà, puis merci. Voilà, on va rappeler Fred. Donc, on vous a appelé un petit peu plus tôt que l'horaire prévu. Donc, merci pour votre disponibilité. Alors, je disais en préambule du journal, vous êtes bénévole au sein de ce collectif déjà depuis 3-4 mois. Alors, on va en parler de certaines activités, notamment dans le cadre du confinement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler eh bien le collectif, dans quel but ce collectif a été créé?
Oui, bien sûr. Alors, Bienvenue existe aujourd'hui depuis 2018. Donc, dans un premier temps, cette association, elle s'est créée pour collecter des fonds pour SOS Méditerranée. Et donc, nous, sur place, sur Bordeaux, on programme une mobilisation citoyenne et culturelle, donc avec du théâtre, du concert et des expositions, pour informer, sensibiliser et changer le regard sur l'accueil des réfugiés. Voilà, et donc, tous les sous qui sont récoltés durant cette manifestation culturelle aident pour les fonds de SOS Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment les statuts associatifs, ce qu'on propose habituellement. Et donc là, effectivement, face à cette crise sanitaire, Bienvenue a souhaité se mobiliser aussi sur place avec les associations locales pour pallier à l'urgence de cette crise, et notamment à venir en aide aux personnes les plus démunies sur la métropole.
Voilà, puis juste en vous écoutant avec attention, Laura, je pensais au concert de Mostafa Arfi, voilà,
oui, qui s'est
au rocher de Palmer. C'est vrai que voilà, il y a des actions, il a fallu s'adapter. Alors justement sur l'aide alimentaire, parce que je crois que c'est pas forcément la vocation à long terme, mais là c'était vraiment une urgence en tant que citoyen. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chiffres, par exemple combien de bénévoles? On a eu Kiko, un des bénévoles, qui nous a parlé il y a 3 semaines au moins. Voilà, des actions menées. Donc avant de parler de manière plus précise sur les distributions que vous avez pu réaliser, vous êtes combien à peu près de bénévoles, de citoyens impliqués, engagés?
Alors aujourd'hui, on atteint quasiment les 45 bénévoles sur les missions de distribution. Voilà, donc depuis plus de 2 mois et demi. Alors après, je peux citer quelques chiffres pour donner peut-être une couleur sur nos actions. Donc nous, on travaille avec une quarantaine de partenaires, donc que ce soit entre les collectivités, les associations locales aussi. Là, je pense voilà, que ça fait à peu près 9 semaines qu'on se mobilise sur les distributions et les livraisons. Et donc, si on fait un compte, ça fait à peu près 3000 heures de bénévolat. Déjà.
Oui, c'est bien voilà. De quantifier. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est bien de montrer l'importance oui, voilà. De cette urgence sanitaire, alimentaire en plus particulièrement.
Bien évidemment, parce que donc c'est nous. Enfin, il y a 2500 personnes qui sont référencées sur la métropole, étant donc à la rue, exilés, migrants, réfugiés, donc qui sont dans un besoin d'aide alimentaire et de produits hygiéniques. Et nous, bienvenue dans notre action ciblée, c'est entre 800 et 1000 personnes qu'on approvisionne une fois par semaine pour un repas par jour et par personne. Voilà, donc là-dedans, il y a aussi des femmes seules, des hommes seuls, des familles et des nourrissons. Donc ça fait beaucoup de travail voilà à gérer. Et donc sur place avec Darwin notamment, c'est mettre en place une organisation qui puisse être adaptée pour pour venir faire ces distributions, ces colis-là, toutes les semaines, en respectant les gestes barrières, la chaîne du froid, etc.
Voilà, puis Darwin, c'est important d'en parler parce qu'on a eu plusieurs associations, Maraude du Cœur, etc. Parmi les partenaires Darwin, alors c'est pas juste une implantation géographique, mais ça a été vraiment un partenaire, et, un lieu également de liens, d'espace de stockage adapté. Donc Darwin a joué également un rôle dans cette chaîne de solidarité. Hein.
Bien évidemment, voilà, c'est donc à la base Éric Chevance qui fait partie du collectif Bienvenue, qui a été en lien avec donc François Parot et Philippe Barre de Darwin pour mettre en place en fait ces lieux de stockage pour les marchandises qu'on distribuait. Et très vite en fait Darwin a proposé de s'investir auprès de nous avec son équipe qui avait été mise au chômage partiel dû au confinement pour qu'ensemble on puisse avoir voilà quelque chose de dense de qualitatif, disons, avec, ben, comme vous disiez, la position géographique, mais aussi les prêts et les prêts de véhicules et aussi les fournisseurs de Darwin. Enfin, c'est vraiment en fait un réseau de partenariats qui s'est monté petit à petit. Et aujourd'hui, sans Darwin et sans cet espace-là, on n'aurait pas pu faire ça de manière continue, disons. Donc merci aussi à eux.
Voilà, c'est bien de citer. On ne peut pas citer malheureusement tous les partenaires, mais voilà, une activité dense en plus dans le contexte que l'on connaît. Alors, les collectivités, souvent, on parle, on a vu au niveau de la métropole ou des villes, en plus, on est sur une période avec le Covid-19 vraiment bien singulière. On était en période également d'élection, là où en théorie, les lieux communs, c'est dire, bon voilà, il peut y avoir des promesses, des propositions. Alors, quels ont été les rapports, justement, les liens avec les collectivités? Il y a eu des demandes, des refus, sans forcément nommer quiconque. Mais ça a été qui le lien? Vous avez senti vraiment des soutiens, qu'ils soient financiers ou autres, en matière de logistique, par exemple?
Bien sûr. Alors, bon, déjà, la complexité, comme ça a été dit, nous, on n'est pas une association à vocation de distribution alimentaire à la base. Donc, nous, on n'est pas référencés, effectivement, dans des services des collectivités pour faire des demandes de subventions à ce titre-là. Mais tout de même, on a été, on nous a donc soutenus financièrement. Donc, bon, je vais peut-être pas les citer, mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, ça a été près de plus de 40 000 euros de subventions. Enfin, de subventions, de dons avec la cagnotte. La cagnotte en ligne a reçu 13 000 euros, donc déjà un grand merci à tous les donateurs. Donc ça a été complexe, donc on ne va pas dire que les relations sont très fluides ou sont très faciles, mais en tout cas, il y a eu une certaine écoute de la part des collectivités. Donc certains nous ont soutenus financièrement, d'autres plus matériellement, entre guillemets, donc avec le prêt de camions frigorifiques, avec le département. Enfin voilà, donc on tente d'avoir une relation et comment dire avoir aussi voir à long terme sur mais comment s'impliquent les collectivités dans cette cause-là, dans ces problématiques-là, parce que ces populations aujourd'hui ne sont pas accompagnées et prises en charge par l'État ou comme ça devrait l'être. Donc ce sont des associations qui se mobilisent et qui en font quasiment un temps plein pour la plupart. Et ça aussi. Donc les relations sont en cours, les collectivités, et donc ensemble, on tente de trouver des solutions qui soient adaptées.
Alors pour la suite, tout à fait, mais c'était bien de l'aborder également sans langue de bois, sans forcément nommer, bien sûr, quiconque. On n'est pas là pour ça à cet instant précis, mais c'était bien d'en dire quelques mots. Alors, vous le rappelez, hein, Laura, bien sûr, au sein de l'association du collectif Bienvenue, votre mission, c'est pas, bien sûr, toute cette chaîne alimentaire, mais là, c'était pour répondre à une urgence. Il faut laisser personne de côté, surtout dans des périodes de pandémie. Alors, est-ce que vous sentez qu'il va y avoir un relais? Parce que là, on parle de déconfinement, on revient un petit peu à la normale, entre guillemets. Alors, comment ça va se passer ce relais?
Oui, alors effectivement, avant le confinement, il faut savoir que ces populations travaillent, ont des petits boulots, ont des petits contrats, etc. Et du fait du confinement, ne pouvaient pas se déplacer parce que beaucoup de Beaucoup de squats sont aussi à l'extérieur du centre-ville, donc avec des problématiques pour se déplacer, etc. Donc notre intervention et l'intervention d'autres associations a été très importante là-dedans. Donc nous, on est venu en soutien, par exemple, de la Croix-Rouge, des Restos du Cœur, du Secours Populaire. Et donc nous, petit à petit, on prévient les gens sur place en disant, nous, en tant que bienvenus, on va se retirer pour laisser ces associations-là qui de manière quotidienne interviennent sur ces missions-là. Nous, on n'est pas forcément formés ou qualifiés pour faire un accompagnement et un suivi à long terme. Par contre, nous, ce qu'on insuffle, c'est aussi un accompagnement plutôt vers une indépendance et une autonomie et une prise de contact avec des associations de relais. Donc nous, c'est quand on va sur les lieux de vie, donc en respectant effectivement les gestes barrières, etc., leur fournir des contacts, des adresses et une facilité d'accès à toutes ces informations-là pour qu'eux puissent après entrer en interne s'approvisionner comme ils le faisaient auparavant ou en tout cas en étant un peu plus en soutien par rapport à ça. Donc là, la transition va se faire de manière progressive. Et donc nous, petit à petit, on va reprendre notre travail en interne qui est la préparation de la mobilisation culturelle pour 2021. Mais par contre, quelque chose qui a été très positif aussi dans cette crise-là, dans ce temps-là, c'est la dynamique et les forces vives qui s'est créée, en fait, qui est née avec ces gens de la société civile, des artistes, des militants, des gens qui avaient vraiment envie de s'investir pour ces missions-là. Eh bien, maintenant, on est plus outillés, on est plus organisés, et donc on va rester disponible pour si jamais il faut refaire face à une crise sanitaire. Donc je pense notamment par exemple à une canicule estivale ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Donc ça va être, on sera moins dans l'urgence comme on a pu agir directement, mais par contre on pourra anticiper, on pourra se coordonner pour agir différemment et plus rapidement sur le terrain.
Voilà, parce que là, il fallait s'adapter, il y avait l'urgence, il fallait laisser personne au bord de la route, on en parlait notamment avec d'autres intervenants. C'est vrai que quand on entend des messages, on a des visuels partout sur les gestes barrières, et dans nos squats, il n'y avait pas forcément de l'eau, ne serait-ce que pour se laver les mains, donc il y avait une véritable urgence. Et vous avez cité certaines assos, alors on en a peut-être oublié, bien sûr, alors, mais c'est surtout pas voulu, et qui, elles-mêmes, fallait qu'elles s'organisent. On a eu régulièrement des intervenants du Secours Populaire. Mmh. Eh bien, il a fallu qu'ils s'adaptent aussi, parce que beaucoup de bénévoles avec un certain âge, voilà, n'en demeuraient pas moins actifs, mais il fallait vraiment s'adapter. C'était l'urgence du quotidien.
Hein. Exactement. Et donc là aussi, on peut remercier donc toutes les associations, mais aussi Action contre la faim qui est venue nous livrer des centaines de kilos de produits hygiéniques, donc des shampoings, du gel hydroalcoolique, du désinfectant, etc., qu'on a pu livrer au fur et à mesure sur les lieux de vie pour que dans ces lieux-là, il puisse y avoir des gestes barrières qui puissent être assurés, parce que comme vous l'avez dit, dans certains lieux de vie, il n'y avait même pas d'eau potable. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'habitants de Bordeaux, se dire que pas très loin d'ici, les personnes à qui on livrait du riz, des pâtes, etc., ne pouvaient même pas se faire à manger et ne pas non plus laver correctement. Donc c'est terrible. Et dans ce contexte-là, la communication et tous les réseaux qui ont été mobilisés, donc la presse locale, etc., pour mettre aussi un coup de projecteur et un coup de lumière sur ces grosses problématiques qui existent depuis des années, eh bien là, je pense qu'il y a aussi un nouveau regard sur ce sujet-là, et donc notamment beaucoup plus de d'intérêt, mais aussi de mobilisation, qu'elle soit financière, qu'elle soit de l'aide directe, qu'elle soit matérielle, etc. Donc vraiment, nous, en interne, au fur et à mesure du confinement, et là aussi du déconfinement, c'est des dons, c'est de l'accompagnement, c'est du soutien, c'est de l'accueil. Donc merci aussi à toutes ces personnes-là.
Mmh. Alors pour la suite, parce que c'est vrai que pour certains, le mot déconfinement, mais voilà, ça amène quand même une bouffée d'oxygène. Hein. C'est pas le cas malheureusement pour tout le monde. Alors à la fois, il faut assurer, vous au sein de Bienvenue, cette transition, hein, vous le rappelez, hein, toute cette aide alimentaire, c'était d'urgence, c'était du bon sens. C'est pas votre vocation première. Donc la suite, c'est quoi à la fois pour le collectif et tous ces liens entre associations, etc.
Eh bien, notre envie prioritaire, c'est donc le souhait de se rassembler autour de la table, donc avec les associations, la préfecture, madame la préfète, etc., pour penser une organisation adaptée et qui soit durable, en fait. Donc, dans le but déjà de permettre de faciliter des démarches administratives, donc par exemple des locations de camions, etc. Enfin, là, je parle de cet exemple-là, mais c'est vraiment pouvoir penser ensemble quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence malgré la fin du confinement. C'est vraiment quelque chose qui se voit et qui est vécu quotidiennement pour les populations dans les lieux de vie. Nous, en tant que Bienvenue, on fait partie donc des états généraux de migration, donc un rassemblement aussi d'associations qui réfléchit et qui se réunissent à l'après, en fait. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse concrète sur quel va être l'après, mais c'est en cours. Voilà, c'est en cours, c'est des souhaits, c'est des demandes, on attend des réponses. Et des réponses concrètes, voilà, et rapides, voilà, parce qu'on travaille avec l'humain, on travaille avec la santé des gens, etc. Donc c'est aussi nous à notre petite échelle avec les moyens qu'on a, c'est arriver à transmettre des messages. Donc je pense notamment sur le jour du 1er mai où nous on est intervenu, il y avait une quarantaine de personnes sur Darwin et donc on a fait une action militante et solidaire avec pour soutenir la régularisation excusez-moi de tous les sans-papiers et de lancer des messages comme ça marquants pour qu'il y ait des véritables prises de conscience et de l'engagement auprès des collectivités et pour amorcer ces sujets-là. Voilà.
Très bien. Non, mais on suit. Puis on est en modeste relais également à ce niveau-là. Laura, il y a un point qu'on aurait pu présenter dans la chronologie. Désolé de revenir juste un petit peu en arrière sur le conducteur. Vous avez lancé avec l'association l'opération Masque un colis ce mercredi. Alors, qu'en est-il? Et en tant que citoyen, bien, comment on peut contribuer à cette opération qui a du sens une fois de plus, hein?
Alors c'est une action exceptionnelle qui a été pensée. Donc l'objectif c'est de récolter 600 kilos de nourriture. Donc c'est très simple, c'est en fait en tant que bénévole c'est se positionner à l'entrée des grandes surfaces pour récupérer des colis alimentaires, donc des personnes qui vont acheter dans les supermarchés, donc avec un minimum de 2 kilos. Donc ça peut être du riz, des pâtes, des conserves, des produits d'hygiène. Et en échange, on offre un masque à la personne qui nous a donné le colis. Donc ces masques-là, ils ont été confectionnés par Masque Attaque Bordeaux Métropole et donc toutes ces denrées récoltées seront ensuite distribuées sur les lieux de vie. Donc voilà, c'est aussi une autre manière de sensibiliser, de transmettre des messages et de faire parler, alors pas que du collectif, mais de la situation pas catastrophique, mais en tout cas d'urgence, encore une fois, sur le territoire.
Donc ça, c'est lancé, on peut retrouver dans... après, il y a besoin, bien sûr, de manœuvres, de bénévoles, mais ça, c'est lancé depuis mercredi. On peut avoir des infos, je ne sais pas, sans forcément donner certaines grandes surfaces. Quel type de... peut-être des grandes surfaces, des moyennes surfaces, je ne sais même pas si ça se dit, tout cas des hypermarchés, des lieux de vie. Donc ça, on peut avoir ces infos facilement ou via le... Le lien peut-être ou un site internet, pardon Laura de...
Bien sûr, mais c'est ça, vous l'avez dit. C'est sur le site internet de Bienvenue, le collectif Bienvenue, ou sur le Facebook. Voilà, donc il y a un flyer qui a été créé. Donc si vous allez sur internet, vous allez directement tomber dessus parce que c'est une de nos dernières actions. Donc voilà, il n'y a pas de souci, il y a une adresse mail, vous contactez le collectif bienvenue@, je ne sais plus exactement l'adresse mail, mais en tout cas vous contactez.
On va partager, bien sûr.
Et donc ensuite on vous répondra. Et si vous souhaitez aussi vous investir bénévolement sur la suite, parce que nous, nos actions vont se poursuivre au moins jusqu'à fin juin, voilà, ça c'était aussi une date peut-être à énoncer, on pourra vous accueillir avec grand plaisir et Et si vous avez un peu de temps à consacrer à tout ça, eh bien on sera heureux de pouvoir vous accueillir dans ce groupe de bénévoles qui s'est étoffé au fur et à mesure.
Laura, pour conclure, l'entretien, bien sûr, hein, parce que voilà, le combat n'est...
Oui.
Quant à lui, il est loin d'être terminé. Donc, je ne sais pas si vous voulez intervenir sur un point. On ne peut pas tout dire, bien sûr, au travers d'une interview. À minima, l'essentiel, entre guillemets, a été dit. Je ne sais pas, du coup, si vous voulez revenir sur un point, étayer certains propos.
Encore une fois, remercier, donc je ne vais pas les citer parce que j'ai dit qu'il y avait une quarantaine d'associations, mais vraiment tout le monde qui se sont sentis impliqués, concernés et qui ont vraiment œuvré sur place, à distance, parce que c'est aussi une logistique, disons, en toile d'araignée. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là. Et puis aussi peut-être informer que... Donc, suite au confinement, Bienvenue n'a pas pu organiser la mobilisation citoyenne et culturelle. Mais par contre, il y a eu sur le site internet et sur le Facebook des capsules artistiques, des capsules de témoignages avec des programmations très diversifiées pour récolter aussi des fonds pour SOS Méditerranée. Donc, c'est aussi se délecter devant ces capsules et ces capsules artistiques qui sont vraiment de qualité. Et qui sont disponibles pour être écoutés, entendus. Et puis la cagnotte pour les achats de première nécessité est aussi disponible et elle ne s'arrête pas non plus. Donc ne pas hésiter à aller chercher toutes les informations sur Internet.
Très bien, bon, on va partager modestement, mais on sait qu'on peut au moins être en lien. Voilà, la parole peut être prise sur notre antenne et on va communiquer certaines informations, site internet, Facebook, etc. pour avoir les bonnes infos, les liens directs. En tout cas, merci Laurent. On rappelle, vous êtes bénévole au sein de l'association Bienvenue. Donc merci pour ces quelques minutes d'intervention sur notre antenne.
Oui, merci à vous.
Et c'était donc Laura Ousty, bénévole au sein de l'association Bienvenue. Et là, on va réentendre un entretien réalisé le 14 mai dernier avec Alain Duleburet, président de l'association L'Autre Rive, l'association qui édite le journal L'Écho des Collines, l'info 100% en rive droite. Et il nous parlait du numéro 236 d'avril-mai 2020. Et voilà, on est ravis de recevoir notre voisin du domaine du Louret, Alain Duleburet, président de l'association L'Autre Rive, qui édite le journal Écho des Collines. Alain, bienvenue sur l'antenne d'Odo Radio.
Bonjour à tous.
Oui. Alain, ça va bien? Vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends très très bien. Et vous?
Oui, on s'entend bien. Parce que comme je vous entendais un petit peu loin, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous avoir. Alors, c'est vrai que Alain, l'association L'Autre Rive, on connaît surtout avec le journal Écho des Collines. Après, Vous menez d'autres activités, bien sûr. Alors, il a fallu s'adapter également de votre côté. Alors, qu'en est-il du prochain ou nouveau numéro de l'Écho des Collines?
Alors, d'abord, je suis heureux de vous apprendre la parution du numéro d'avril-mai qui a été expédié à nos abonnés il y a 2 ou 3 jours et qui est aussi disponible dans nos différents points de vente. Donc, c'est une fin d'une période difficile car pour le mois d'avril, on n'avait pas pu matériellement ni faire imprimer ni adresser le numéro qui était en préparation. Et donc, heureusement, nous avons pu reprendre nos travaux il y a déjà un peu plus d'un mois, progressivement, pour terminer ce numéro qui était en préparation et pour pouvoir l'adresser, certes avec encore un peu de retard dû aux problèmes d'impression, mais enfin, nous avons pu le faire. Et donc, c'est... un aboutissement d'une part par rapport à ce qui était en cours avant le confinement.
Oui.
Et puis aussi c'est l'ouverture vers d'abord nos travaux réguliers et puis aussi vers des modifications dont je peux vous parler dans un instant. Donc ça a été pour nous une époque difficile comme tout beaucoup de nos concitoyens et en particulier dans le journalisme et dans la communication. Mais on a pu s'adapter Donc depuis maintenant à peu près un mois, on a repris nos travaux en visioconférence, donc avec des moyens numériques, puisqu'on ne pouvait pas se rencontrer, nous étions tous confinés. Et puis on a aussi travaillé à distance avec notre infographiste, Antoine, qui lui était en télétravail, qui est toujours d'ailleurs, parce que notre local n'est pas encore tout à fait utilisable au Loret. Et donc tout ceci a fait que, par des moyens modernes sur lesquels ben, nous avons eu obligation d'avancer, on a pu travailler, écrire et publier ce fameux numéro. Voilà. Alors, je peux vous en dire plus, parce qu'il y a déjà une rupture par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et puis, je pourrais vous dire aussi quels sont les projets que nous avons en cours.
Bien sûr, mais on va en parler. Hein. L'important, c'était de voir avec vous eh bien, qu'effectivement, le numéro d'avril-mai, voilà, les abonnés doivent l'avoir ou c'est en cours. Et également, les lieux partenaires, ça, c'était important d'en parler. Et juste avant, on va en dire quelques mots, bien sûr, du magazine. Alors, c'est vrai que si on remet dans le contexte, voilà, quand on parle de confinement, etc., donc c'est le moment où vous n'êtes pas encore sur le bouclage du numéro d'avril, mais presque. Ça veut dire que à ce moment-là, quasiment tous les dossiers, les articles sont écrits et par la force des choses, tout est remis en cause. C'est oui. Dans les grandes lignes, c'est à peu près ça. Hein.
Alors, c'est ce qui s'est passé parce que nous avions 80% des articles qui se trouvaient écrits au 15 mars, on va dire, lorsque le confinement est tombé. Et donc, on s'est trouvé totalement démunis parce qu'on avait l'habitude de travailler ensemble. D'ailleurs, on se voyait physiquement une fois par semaine. Donc, il y a eu, du fait du confinement, une absence de contact pendant quelque temps. On a pu quand même, et ce qui était difficile pour nous, commencer très rapidement la relecture des articles. Car il faut savoir qu'avant d'expédier un journal ou un magazine, il y a toujours un travail de relecture. Et donc, on a pu, par le biais numérique, parvenir à relire nos articles, à les corriger et à les mettre en page. Donc ça a été déjà une avancée. Et progressivement, début avril, nous avons terminé le travail de rédaction. Et donc ce numéro s'est trouvé, avec certes beaucoup de retard, vers le 15 avril, le 15-20 avril. Donc voilà, après, ce qui a été pour nous une étape très importante, c'est la date du déconfinement. Donc le fait d'avoir une échéance, ça nous a permis de nous projeter. On savait que le 11 mai, c'était une page qui se tournait. Et de suite, dès que j'ai connu ça, cette date, je dis bon ben voilà, on va travailler différemment, on a une échéance. Donc on est passé immédiatement en visioconférence pour les comités de rédaction et on a accéléré le télétravail pour Antoine, c'est-à-dire qu'on a pris du matériel, on a déménagé une partie, quelques ordinateurs, etc., qui étaient sur le local du Loret pour faire du télétravail et pour boucler carrément tout le travail de mise en page et de préparation du journal au domicile d'Antoine. Mais pour nous, ce qui a été très important, c'est d'avoir, comme pour tout le monde d'ailleurs, une échéance qui nous était fixée et l'espoir renaissait. Et donc là, on a pris avec détermination la décision d'employer des moyens qu'on ne pratiquait pas, mais qui sont avérés totalement efficaces.
Voilà, c'est ce qui est important de souligner. Puis juste une info avant de parler un petit peu en détail, bien sûr, du numéro 236. Oui. C'est vrai qu'au mois de mars, c'est à la fois, bien sûr, les annonces du confinement. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, on est incrédule, on n'est pas habitué. C'est vraiment une situation inédite. Donc on peut avoir des moments, se dire, bon, comment ça va se passer, etc. Et vous, cette période de mi-mars, c'était quand même une bonne nouvelle avec votre opération de financement participatif qui s'est terminée. Donc il y a une bonne nouvelle quand même parce que c'est un soutien financier parce qu'on a besoin également de cette manne financière pour avancer. Et donc là, il y a cette bonne nouvelle, si je puis dire. Et puis, d'un autre côté, il faut se réorganiser. Donc, vous avez quand même pu passer le cap hein, en s'adaptant. Voilà, c'est peut-être pas simple, mais enfin, là, le numéro, il est là. Donc, si vous voulez dire deux mots sur la campagne de financement qui s'est soldée par un solde positif. Voilà, objectif atteint. Puis, on va parler du dossier de ce numéro 236.
Voilà, alors nous étions dans un contexte difficile depuis le début 2020 par le fait de l'absence d'une subvention importante en fin 2019. Donc on a bâti un budget 2020 d'une part qui était contraint, mais aussi avec d'autres modes de financement, des partenariats qui se sont avérés positifs au niveau des certaines collectivités locales. Et puis, on a tenté l'aventure du financement participatif, donc une opération qui s'est lancée vers le 15 janvier et qui s'est terminée officiellement le 19 mars, donc 3 mois après, et juste au moment du confinement.
Et oui, c'est ce que j'ai dit, c'est le paradoxe.
Et oui, et là, j'étais inquiet à partir de fin février, parce que je voyais se profiler l'épidémie, et je me demandais si on allait boucler cette opération. Et fort heureusement, elle s'est terminée avec succès, puisque on avait un objectif de collecte de 3000 euros pour compléter notre budget 2020. Et on a collecté 3 275 euros, donc pratiquement 3 300 euros, c'est-à-dire 110%. Et ce qui pour nous a été bien sûr un encouragement, et d'autre part la conviction que nos lecteurs pensaient encore à nous et voulaient nous voir continuer. Donc ça a été pour nous une très bonne chose à la veille du confinement, parce que on ne pouvait pas faire autrement que continuer. Donc on a été tous abasourdis, bien sûr, par le confinement et les conditions difficiles de travail au début, mais on savait qu'il fallait reprendre. Donc ça a été pour nous un point très positif.
Alors on va en dire quelques mots. C'est pas évident de parler, bien sûr, d'un magazine, parce qu'il faut pas trop en dire, voilà. Mais il faut quand même, pour des nouveaux lecteurs, et on parlera comment vous soutenir, parce que c'est vrai que beaucoup de structures, ont des difficultés. On le comprend hein, par la force des choses. Donc soit il y a d'autres cagnottes qui sont lancées, et vous, on verra. Vous allez nous le dire si on est d'accord avec ça. Je pense que vous l'êtes. Que pour vous soutenir, on peut s'abonner, etc. Mais juste avant de, on va se quitter sur ça. Mais je n'oublie pas. Hein, je l'ai bien noté. Alors le numéro 236. La rive droite au rythme de son fleuve. Donc ça, c'était un dossier, bien sûr. C'était le numéro d'avril, j'allais dire, tel que vous l'avez conçu en conférence de rédaction.
Oui.
Est-ce que sur d'autres dossiers, vous nous avez dit, je crois, Alain, 80% à peu près du magazine était réalisé. Est-ce que vous avez retouché un petit peu? Et puis, alors, si vous voulez nous dire quelques mots sur le dossier, alors, certains articles à mettre en avant.
Bien sûr. Alors, par la force des choses, parce que l'actualité était prégnante, on a réservé d'abord notre éditorial et puis aussi un billet d'humour parce qu'on voulait changer de ton sur l'épidémie et la crise sanitaire. Donc on ne pouvait pas ne pas réserver quelques pages et qui sont tranchantes, je dirais, d'abord par l'éditorial qui précise dans quelles conditions on a commencé à travailler, et puis par un autre angle, on va dire, d'appréhension de la crise sanitaire, avec un billet d'humour qui est signé de notre rédacteur très fidèle Gilbert Pérez, et qui donne un autre angle et une façon amusante de décrire ce qui avait pu se passer. Mais donc, ceci étant dit, on voulait, et on a persévéré dans cette idée, trancher aussi par un sujet qui était différent et qui nous remettait en phase avec d'abord notre belle rive droite et le fleuve qui nous borde. Et on a voulu faire une ouverture sur le cadre de vie, les activités traditionnelles du fleuve. Je vais vous en dire deux mots, comment a été composé ce dossier. Mais on avait besoin d'oxygène, on avait besoin de liberté, on avait besoin de penser aux balades, aux activités futures. Et donc on a maintenu, largement cette idée-là en la développant. Donc ça donne quelques idées et puis quelques articles sur d'abord le patrimoine qui borde le fleuve et donc à la recherche des anciens ports de la rive droite, et puisqu'on a retrouvé des traces d'anciens ports de pêche situés à la Traîne, mais aussi au Tourne et aussi à l'Anguaran. Donc on décrit avec des photos qui sont très flatteuses, parce que c'est des photos de l'été, c'est des photos du soleil, donc on regarde ça avec beaucoup de plaisir. Et on a continué Également pour parler aussi d'une activité traditionnelle qui était la pêche en Garonne, avec donc cette activité qui était une activité professionnelle, il n'en reste pas grand-chose bien sûr, mais on le décrit, et puis aussi les curieuses pêches et quelques images insolites donc des pêches au carrelet, tamis pour les pibales, etc. Donc on a fait un point d'histoire, mais on a aussi regarder avec un œil actuel et l'avenir, ce qui pouvait se profiler. L'œil actuel de la Garonne, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est souvent un obstacle plus qu'une alliée, notamment pour les transports. Donc on a fait un point sur les traversées de la Garonne et aussi les projets en cours, avec l'interview de Jean Touzeau qui nous a dit son point de vue pour faciliter les franchissements de la Garonne. Et puis l'avenir, c'est aussi des technologies nouvelles, parce que aujourd'hui, il y a la mise en valeur de l'énergie des marées sur la Garonne, et donc il y a une plateforme avec une hydrolienne qui fonctionne depuis 2016, et on a fait un point et un éclairage sur cette hydrolienne et un nouveau mode d'énergie possible. Enfin, on a fait aussi un tour de l'histoire avec les crues et parce que la Garonne, c'est aussi qui n'est pas qu'un long fleuve tranquille, au contraire, et qui a aussi fait parler d'elle pour malheureusement des crues dévastatrices. Donc voilà, ça donne envie d'aller plus loin, d'en connaître un peu plus, de découvrir des lieux assez insolites, et surtout de penser aux beaux jours. Alors après, on a bien sûr dans nos rubriques habituelles, que sont les échos de communes, on a malheureusement, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que les dernières manifestations, et notamment celle qui a été célébrée, c'était juste en fait à le carnaval englouti. Donc on a fait un papier sur, ça s'est déroulé le 8 mars, donc le carnaval des deux rives, c'était un des derniers événements qui ont pu se dérouler sur la rive droite. Et donc là, on a fait un descriptif de ce que c'était le carnaval englouti, parce que le thème du carnaval, c'était le réchauffement climatique et la montée des eaux. Et aussi, on a fait un article sur la préparation de ce carnaval. Donc voilà, on a voulu se donner d'autres idées en tête que l'épidémie, d'autres ouvertures, et je pense que ça donne quelque chose qui sera agréable à lire.
Alors Alain, on va en rester là parce qu'on a un prochain invité. Voilà, mais on aura l'occasion bien sûr de se recroiser en étant voisin, mitoyen à Audio Radio, même s'il y a toujours bien sûr des mesures prises gouvernementales, mais à l'échelle bien sûr du maire de ce nom quant à l'occupation, l'utilisation des locaux associatifs. Mais juste pour conclure, on va quand même garder juste quelques instants parce qu'on a une prochaine invitée juste après. Donc oui. Pour vous soutenir, c'est ce que je disais, j'ai glissé entre parenthèses, c'est vrai que beaucoup de structures, bien sûr, certains vont avoir du mal à poursuivre leurs activités. Mais vous, si on veut vous soutenir, il y a un moyen qui est quand même fort simple. Alors bien sûr, en tant qu'asso, on peut recevoir des dons, mais on peut s'abonner, donc voilà. Ou acheter au numéro, bien sûr, chez les détaillants. Donc justement, comment on peut s'abonner?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site, donc www.ecodescollines.fr. Et donc là, il y a une boutique en ligne qui permet d'une part l'achat au numéro, mais plus généralement et plus souvent de s'abonner. Donc ça permet à nos lecteurs ponctuels de recevoir directement le journal chez eux. Le prix de l'abonnement, c'est 30 euros. Il y a aussi la possibilité avec la liste des points de vente qui figure en première page de notre site, d'aller sur les points de vente, il y en a une vingtaine ici sur la rive droite, et d'acheter au numéro, bien sûr, le journal. Donc ça, c'est très simple, ça fonctionne très facilement, et je crois que c'est la meilleure formule, comme vous le soulignez, de pouvoir nous soutenir.
Voilà, bah écoutez Alain, merci beaucoup pour ces quelques minutes. On va repartager bien sûr cette information sur notamment nos réseaux sociaux. Alors on vous remercie Alain, on rappelle, vous êtes le président de l'association L'Autre Rive, éditrice entre autres du journal Écho des Collines. On n'aura pas pu tout dire bien sûr sur vos activités, mais c'était important de voir que le nouveau numéro 236 avril-mai est sorti. Et c'est un moyen par votre intermédiaire bien de saluer voilà toute l'équipe amie d'Odo Radio, toute l'équipe de l'association L'Autre Rive, et on espère bientôt se recroiser physiquement, Alain, pour parler des prochains numéros de projet. Sûr. Allez, merci beaucoup.
Merci à vous aussi. Allez, bonne journée, à bientôt.
Allez, merci, à très vite. Allez. Juste merci beaucoup, Alain. Voilà. Et enfin, pour clôturer ce numéro spécial de l'écho des associations, troisième entretien avec cette fois Lisa-Marie Evenot. Elle est chargée de développement à l'association Culture du Cœur Gironde. On va accueillir notre invité du jour, Lisa-Marie. Lisa-Marie, bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Odo Radio.
Bonjour.
Alors Lisa-Marie, je disais en préambule, vous êtes chargée de développement à l'association Culture du Cœur Gironde. On sait que c'est une association partenaire d'Odo Radio. On est dans les mêmes bâtiments, si avec cette période de confinement, bon voilà, on n'a pas pu forcément se croiser. Ça, c'est pour le petit clin d'œil. Alors en préambule, j'ai dit deux ou trois mots sur l'association Culture du Cœur Gironde. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps bien les objectifs, les missions, puis on rentrera certainement dans le détail, par exemple autour du festival lié, des partenaires, etc. Mais en préambule, quelles sont vos missions au sein de l'association Culture du Cœur Gironde, Lisa-Marie ?
Oui, alors en fait, Culture du Cœur, c'est une association qui est nationale à la base, qui a été créée en 1998, et nous, l'antenne girondine a été créée, elle, en 2006. Donc nous, nos actions au quotidien, on va dire, dans une situation plus quotidiennement habituelle, on va acter pour favoriser la participation à la vie culturelle des personnes accompagnées par les structures sociales et médico-sociales sur le territoire girondin. Donc d'habitude, nos actions vont plus se composer de façon avec des sorties en autonomie et des rendez-vous culturels avec des actions de médiation que nous proposons lors de permanences dans les structures sociales partenaires. Et donc ça, c'est du coup notre activité à l'année qui a du coup été fortement endommagée par le confinement. Donc nous, les principes de l'association, c'est surtout de nous donner accès à la culture de façon plus large aux personnes qui en sont habituellement éloignées. Et donc ça passe par un système de partenariat entre les structures sociales et les structures culturelles sur le territoire girondin et donc aussi principalement sur Bordeaux et la métropole. Et c'est comme ça que nous agissons au quotidien.
Alors pour le public, il faut qu'il s'adresse à un des opérateurs culturels de sport, de loisirs, qui est partenaire. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est d'abord le prescripteur, l'opérateur, qui lui-même connaît bien sûr soit ses adhérents, ses usagers, etc. Ça se passe comment sur le premier contact, si je puis dire ?
Sur le premier contact, en fait, nous, on passe donc par les structures sociales partenaires, et donc ça peut être par exemple des CCS ou encore des MECS, ce genre de structures. On en travaille plus de 80 actuellement, et donc c'est par ces structures que nous faisons le partenariat qui ensuite peut faire profiter nos actions à leur public.
Voilà, alors sur le public, parce que c'est vrai qu'il y a un constat, bon, on ne va pas parler de la période de confinement, mais quand voilà, il y avait une activité culturelle, sportive, de loisirs, c'est vrai qu'il y a des fois des spectacles qui ne rencontrent pas leur public, donc ça laisse des places vacantes, libres, et de notre côté, il y a certaines personnes qui se disent, bon, mais voilà, la culture, ce n'est pas pour moi, pour une raison budgétaire, pour plein d'autres raisons, donc il n'y a pas ce constat qui est fait au départ, qui permet justement ces rencontres entre les opérateurs et un public qui peut-être découvre pour la première fois des spectacles de manière accompagnée, qui plus est, visite commentée, préparation, rencontre, etc.
C'est ça, tout à fait. En fait, on travaille vraiment sur ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a été créée l'association en nationale. C'est qu'on est parti du constat qu'il y avait énormément de places libres, au final, dans les salles de spectacle ou autres, et qu'on n'en faisait rien. Et donc, c'est parti à la base juste d'un accord de « bon, bah voilà, il reste 10 places, je vais les donner, et je vais faire partager ça » à maintenant ce que nous, on a fait de façon plus formelle, on va dire, avec des partenariats. Et donc, vraiment, pour être bref et aller dans le vif du sujet, c'est par exemple le TNBA qui va nous dire « voilà, je mets à disposition 10 places pour ce spectacle », ou encore le Rocher de Palmer avec qui nous avons un très bon partenariat qui va nous dire « je mets 20 places pour ce spectacle » et nous ensuite de les proposer à nos partenaires. Et donc vraiment, on travaille aussi sur cette question, comme vous l'avez évoqué, de la légitimité aussi, car l'accès à la culture, c'est pas forcément que l'aspect financier, c'est également se dire, voilà, moi je ne vais jamais au spectacle ou au cinéma ou ce genre de choses, parfois aussi principalement pour au début un problème financier, mais qui en fait après va venir sur autre chose. Et donc nous, on va travailler là-dessus, notamment avec nos permanences aussi, pour essayer d'attiser un peu la curiosité et d'attirer les personnes et de les inciter à, voilà, à sortir, à vaincre ces barrières et se dire que voilà, la culture, c'est pour tout le monde, et c'est vraiment sur ça qu'on travaille.
Voilà, et c'est vrai que ça doit être partager la culture. Alors c'est vrai que j'ai toujours les mêmes exemples. Une fois, j'avais un directeur artistique de théâtre, d'opéra, et puis qui rappelait que l'opéra, c'est pas élitiste, c'est qu'un exemple, bien sûr, dans le champ artistique, et que c'est vraiment, ça devrait être à la portée de tout le monde. Alors sans nous parler d'anecdotes précises, qu'est-ce qui remonte, par exemple, d'une famille qui, pour la première fois, rentre dans une salle de théâtre, parce que, bien sûr, par la télé, bon, on peut accéder à, y compris sur les réseaux sociaux, Internet, mais quand on rentre, façon de parler, bien sûr, en vrai, dans une salle de théâtre, de temps à autre également, il y a des rencontres avec les artistes. C'est quoi les ressentis? Ça ouvre plein d'horizons, ça exerce le regard critique, bien sûr, ça engendre plein de choses bénéfiques, c'est du bonheur, tout simplement. Vous avez, sans parler d'anecdotes, des exemples comme ça de famille ou de simples citoyens qui découvrent l'envers du décor et des spectacles en se disant maintenant que j'y ai goûté, voilà, c'est l'ouverture d'esprit et tout ce qui va avec.
Oui, tout à fait. Et puis c'est généralement ce qu'on constate aussi, c'est qu'il suffit d'une fois pour en fait susciter l'intérêt pour la suite. Donc par exemple, on a beaucoup de familles ou même d'individuels qui se sont rendus grâce au partenariat de leur structure sociale avec Culture du Cœur pour la première fois au théâtre. Et donc souvent, j'expliquais un petit peu au début, on organise donc des rendez-vous culturels qui du coup sont en fait une sortie avec une action de médiation. Ce qu'on entend, c'est que par exemple, comme on parlait de théâtre, on va aller voir une pièce de théâtre, mais avant, on va visiter les coulisses, on va rencontrer les comédiens, on va rencontrer la régie, ce genre de choses, et vraiment histoire d'aller un peu plus loin que ce qu'on voit. Donc je veux dire, on va aller au théâtre, on va voir une pièce, mais on va en parler. Ou alors généralement, on prend toujours le temps aussi, en sortant de la pièce, de faire un retour sur comment ça s'est passé, ce qu'on a aimé, est-ce que ça a plu, est-ce que ça a pas plu. Là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est juste avant le confinement, mi-février, on a pu assister à une pièce au TNBA, justement, qui était très... on a pu donc visiter le TNBA, visiter les coulisses, voir la scène se mettre en place. C'était vraiment très, 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 très intéressant et très constructif. Et puis du coup, la pièce était très bien, mais aussi un peu très, très décalée, comme souvent on peut avoir au TNBA. Et du coup, on avait vraiment ce débat à la fin où voilà, tout le monde a pu en discuter et voir ça ensemble. Et ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et ensuite, pour la suite, ça déclenche aussi, je pense, une envie de continuer, de découvrir autre chose. Et c'est de là dont on part pour notre travail, en tout cas.
Alors, vous avez plus de 80 opérateurs culturels, sportifs et de loisirs partenaires. Alors, une structure, là, vous avez cité le TNBA, le Rocher de Palmer, bien sûr, il y en a plein d'autres. On a dit à peu près 80. Vous avez un réseau de 86 partenaires sociaux. Peut-être que les chiffres ont bougé. Mais pour une structure, par exemple, une salle de spectacle qui est vraiment... qui semble que les valeurs que vous portez, cette médiation sociale, culturelle, accompagnée, ils se disent, ça fait partie de nos missions également. Comment un opérateur peut vous contacter? Il vous appelle, c'est un échange, on prend rendez-vous, on échange sur des modalités peut-être d'accompagnement, de visite, de découverte d'un lieu. Ça se passe comment concrètement?
Tout simplement. On a aussi on a des partenaires, donc par exemple, comme on les a cités, donc le TNBA, le Rocher de Palmer, également les musées de la ville comme le CAPC, le musée des Beaux-Arts, avec qui ce sont des partenaires de longue date et avec lesquels on travaille beaucoup, où là du coup on va aussi axer donc sur du travail de médiation. On a aussi des partenaires qui vont être ponctuels. On a aussi beaucoup d'associations et de compagnies sur le territoire girondin qui vont de temps en temps nous faire un partenariat qui est temporaire. Et juste se dire, voilà, on fait un spectacle, enfin on a trois dates pour un spectacle, on aimerait faire partager cette expérience, on peut vous mettre X places à disposition, et en soi ça s'arrête là, mais c'est aussi tout aussi bien et tout aussi bien pour nous, parce que ça permet de proposer encore plus de sorties et de rencontres culturelles pour nos publics. Donc en soi, oui, c'est assez simple pour les partenaires culturels de travailler avec nous, parce qu'au contraire, plus on en a, mieux c'est, et plus on a de propositions, mieux c'est pour le public, et on amène encore plus de découvertes.
voilà, du moment qu'il y a une vraie envie de partage, bien sûr, de sensibilisation, d'engagement. Or, ce sont souvent des groupes de personnes que vous constituez. Est-ce que vous sentez que, du coup, il y a même un échange entre ces personnes-là ça crée du lien également social. Ça peut créer d'autres envies, d'autres demandes, peut-être. Je ne sais pas, quelqu'un qui découvre, par exemple, la première fois un concert et qui, après, se dit, bien, pourquoi pas aller au théâtre, parce que, voilà, c'est l'enrichissement personnel, du lien social très fort. Donc c'est comme ça que ça se passe, des groupes constitués, et puis vous sentez qu'il y a, un vrai échange également à l'intérieur du groupe, pas qu'entre vous, le groupe et l'organisme, l'opérateur qui vous accueille, mais également dans les personnes qui découvrent pour la première fois, ou même s'ils ont déjà accédé à des lieux, hein, ce qu'on souhaite bien sûr à tout le monde, mais vous sentez que du coup ça crée d'autres liens, d'autres envies.
Ah oui, tout à fait. On a vraiment plusieurs exemples, parce que surtout, nous, ce qu'on prône aussi, c'est la mixité des publics. Donc, sur nos rendez-vous et nos sorties, on retrouve généralement plusieurs personnes de structures sociales différentes. Et pour le coup, là, j'ai l'exemple d'une personne avec qui on s'était rendu en groupe. Donc, en fait, nos rendez-vous culturels sont accompagnés par l'équipe de Culture du Quart. Et sur place, on rejoint, pour l'exemple que je vais vous donner, là, au musée de la Création Franche, par exemple. Donc, on va rejoindre la médiatrice et ensuite former ce petit groupe et ensuite faire la visite tous ensemble. Et le groupe est composé de personnes provenant de différentes structures, donc qui, à la base, ne se connaissent pas pour la plupart. Et j'ai cet exemple-là d'une personne qui sortait pour la première fois à Culture du Quart, qui a énormément apprécié la sortie et qui, au final, on l'a vu dans énormément d'autres sorties par la suite, et qui, en plus, a fait des rencontres et donc s'est fait des amis. C'est vraiment du lien social, et on les retrouvait après tous ensemble, et ça a vraiment créé un groupe très, très, très cool pour le coup, parce que c'était vraiment bien et ça a créé un vrai lien social super intéressant.
Voilà, et puis parmi les temps forts, on peut en dire quelques mots, parce que comme tout le monde, bien sûr, il y a des annulations, des reports. Enfin, on espère pour certains événements que les dates de report puissent être effectives. Alors, on a déjà reçu, bien sûr, ici en plateau, en direct, et on en est toujours ravis, des membres de l'association Culture du Cœur Gironde, pour notamment parler d'un des temps forts. Il y en a beaucoup, hein, vous allez me dire, qui est, par exemple, le festival lié, qui a une saveur, j'allais dire, particulière. Donc là, qu'en est-il? Il y avait une date prévue, on a annulé par la force des choses, c'est reporté.
Tout à fait. Ben là, on devait avoir lieu notre troisième édition le 18 avril à la salle des fêtes du Grand Parc. Et donc pour le festivalier, pour en parler sur quelques mots, c'est un festival qui a été initié en 2017 avec le collectif des liens et qui a eu sa première édition donc en mars et avril 2017, où il y a eu plusieurs donc, concerts in situ dans les structures sociales partenaires et une soirée finale à la fin pour fêter ça tous ensemble. Et donc ça s'était fait encore l'année dernière, on a pu venir en parler dans vos locaux. On a pu faire donc la seconde édition l'année dernière et cette année on avait bien préparé et bien travaillé sur la troisième édition qui devait donc avoir lieu le 18 avril et commencer le 2 avril pour les concerts in situ. Donc elle a forcément été repoussée et on est content de pouvoir quand même juste repousser ces dates parce qu'on va pouvoir ensuite faire ça sur l'automne avec une soirée finale à la salle des fêtes du Grand Parc de Bordeaux le 24 octobre.
Bon, mais c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que là, il faut qu'on soit tous des citoyens, que ce soit dans le tissu associatif ou dans d'autres champs responsables. Donc, vous avez pu quand même pouvoir poser cette date-là, parce que c'est vrai, sur cette période de confinement, il a fallu chacun se réorganiser, etc. Et dans un premier temps, on est obligé d'annuler par la force des choses. Donc là, ça a été évident de trouver une autre date, parce que tous les organisateurs ont vu leur date pour les raisons que l'on sait, par rapport à la crise sanitaire reportée. Donc vous avez pu quand même prendre cette date et puis pouvoir commencer à travailler sur la promotion. Et puis voilà, c'est pas un simple concert, c'est pas juste de la diffusion. Donc ça s'est passé comment du coup ce report?
Mais là pour le coup, on était vraiment au point, on allait commencer et en fait tout était prêt pour nous et comme on disait, il n'y avait plus qu'à. Donc on a eu quand même la chance en fait de faire un rendez-vous avec la salle des fêtes du Grand Parc, notre partenaire, quelques jours avant le début du confinement. Et comme on sentait un peu les choses venir, on avait pu anticiper avec eux une date sur l'automne qui du coup a été validée dès qu'on a compris qu'on devait annuler cette édition malheureusement. Et puis surtout aussi, ce qui est important pour nous, c'était d'abord la sécurité et la santé des partenaires chez qui on était censé se déplacer et donc faire un concert avec les artistes présents. Donc on a vraiment pu repousser tout ça et voir avec eux, donc d'abord avec la salle des fêtes du Grand Parc qui était OK pour repousser cette date, et ensuite avec les autres partenaires sociaux qui eux ont été totalement d'accord pour juste repousser ça et se retrouver de plus belle sur l'automne.
Voilà, donc la date est bloquée, mais là vous suivez, je présume, comme tout un chacun, bien toutes les mesures prérogatives annoncées par le gouvernement. Alors, c'est vrai que voilà, tous les festivals cet été sont annulés. Alors on parle que voilà des manifestations, après à échelle réduite, je vois pas comment on peut organiser un festival avec moins de 10 personnes. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que voilà, on a tous envie d'être positif, mais vous pensez que voilà, on va à défaut d'éradiquer le virus, vous pensez quand même qu'on va rapidement, enfin vous allez me dire oui, sinon vous n'aurez pas pris la date, mais retrouver quelques, voilà, on a envie, hein, le spectacle, voilà, on va pas revenir sur ce qu'on a dit tout le long de l'interview, mais le spectacle, il faut qu'il soit vivant, la culture, ça nous enrichit, c'est du partage, et puis après cette période de confinement, voilà, on a tous hâte de se retrouver, mais là, vous posez pas quand même quelques questions en vous disant, bon, voilà, est-ce que ça va être reporté, est-ce qu'il va y avoir d'autres mesures? On essaie de rester positif, de garder le cap, mais est-ce que vous y pensez à ça ou pas du tout?
Si, bon, bien sûr, on y pense.
Je m'en doute de la réponse en même temps. Hein. On est tous des gens responsables.
voilà, c'est ça, on reste très au fait des mesures qui sont prises et qui vont être prises encore et encore. Mais voilà, nous, c'est comme vous disiez, on reste positif en disant que bon, octobre, on vise assez loin. On espère que d'ici là, ça ira mieux et que dans tous les cas, on essaiera de trouver un moyen de s'adapter s'il y a encore des quotas de personnes, de 100 personnes, que j'en sais rien. Voilà, on essaie vraiment, on fera au mieux dans tous les cas. Et surtout, pour nous, le plus important aussi, c'est aussi comment on va pouvoir se rendre dans les structures sociales. Donc on espère que l'été fera un bon travail d'éradication ou que sais-je, mais que voilà, on pourra se retrouver vraiment de plus belle sur l'automne. Et on espère qu'octobre, d'ici là, on aura eu de nouvelles réglementations qu'on pourra donc nous s'adapter à partir de ça, parce que là c'est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur. Et puis comme je dis, on était prêts pour le coup, donc on a hâte de pouvoir remettre ça en place dès que possible. Toujours en prenant en compte, bien sûr, la sécurité de chacun et les mesures sanitaires.
Voilà, d'où l'importance de respecter plus que jamais, même si on est en période de déconfinement, de respecter tous ces gestes barrières. Voilà, on a tous notre rôle à jouer. Voilà, donc éviter ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein, voilà, des groupements bien inutiles. Voilà, mais ça, on en appelle au devoir civique de tout un chacun. Lisa Marie, on va conclure au moins sur cette partie entretien ce jour. Hein, on espère se retrouver en plateau, bien sûr, pour parler du festival liés et d'autres projets. Donc là, est-ce que vous voulez revenir sur un point ou parmi les projets, si vous voulez dire quelques mots de l'un, s'il y a une échéance avant le festival lié, voilà, si vous voulez pour conclure, quelques mots, comme vous voulez.
Pas forcément d'échéance. Nous, en fait, du coup, depuis le début du confinement, avec l'équipe, donc on est deux chargés de développement et deux services civiques volontaires. Donc on est toujours en télétravail d'ailleurs depuis le confinement, et on a mis en place des catalogues, en fait, parce qu'habituellement Culture du Cœur travaille avec des catalogues qu'on envoie à nos partenaires sociaux pour présenter l'offre culturelle de nos partenaires. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on fait toutes les semaines en proposant voilà X spectacles, X concerts. Et c'est vrai que quand tout s'est arrêté, on s'est retrouvé un peu déboussolé, parce que plus de partenaires culturels, plus de partenaires sociaux, et voilà, on s'est quand même dit qu'il y a un public qui est là, confiné comme nous, et qui attend. Et en fait, on a lancé un catalogue, à la base, qui était un catalogue de crise, comme on l'a appelé, qui est devenu Culture du Cœur, s'invite chez vous, et qui en fait regroupe tout un tas d'activités et de propositions culturelles que l'on peut faire depuis chez soi. Donc en fait, ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pendant 8 semaines, et sur lequel on travaille encore. Donc ils sont toujours disponibles sur... on vous recommande de visiter notre page Facebook, parce qu'on l'a plutôt alimenté pendant ce confinement, avec donc tout un tas de propositions culturelles à faire depuis chez soi. Et on travaille maintenant sur un catalogue de déconfinement où voilà, on propose plus aussi les initiatives de nos partenaires sur le terrain. Et toujours nos coups de cœur, tout ça, mais tout ce qui permet de faire un peu vivre encore la culture, même si on est encore confiné.
Mais en tout cas, merci Lisa Marie pour ces quelques minutes. Voilà, on fait un petit coucou bien sûr amical à toute l'équipe. Et c'est vrai qu'en même temps que je vous écoutais avec attention, voilà, on a des partenaires communs. Quand on parle de la Fondation Abbé Pierre, on a eu Pascal Paoli, son directeur régional, hier en tant qu'invité. Demain, ce sera Isabelle pour nous parler de l'association Les Petits Gratteurs. Donc Lisa Marie, merci beaucoup pour ces quelques minutes. Et puis on espère tous voilà, les jours d'après. Voilà.
Oui, ben nous, merci à vous. Et puis nous, de notre côté, on tient à remercier Audio Radio et bien sûr nos bénévoles et aussi le bureau de l'association qui nous a beaucoup aidé sur cette période. Donc merci à vous et puis on a hâte de se retrouver en face à face.
Voilà, allez, merci Lisa Marie, à très très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.
Et voilà, ainsi s'achève cet écho des associations. Voilà une version inédite en cette période de déconfinement, avant de retrouver bien sûr du public et d'autres associations. Vous avez pu entendre Laura Ousty, bénévole au sein de l'association Bienvenue, en suivant Alain Duleburet, président de l'association L'Autre Rive, éditrice du journal L'Écho des Collines. Et juste à l'instant, dernier entretien avec Lisa Marie Evenot, chargée de développement à l'association Culture du Cœur Gironde. Et c'est ainsi que s'achève ce numéro spécial de l'écho des associations ce lundi 25 mai, rediffusé ce vendredi 29 mai.